RFI, il est minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
On fait le tour de l'actualité française pendant les 30 prochaines minutes. Nous sommes le mardi 2 juillet.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, il sera largement question des législatives anticipées. Le premier tour a révélé un score historique pour le Rassemblement national. L'extrême droite est arrivée en tête et espère une majorité absolue. En parallèle, ce lundi était placé sous le signe des désistements dans certaines triangulaires. Plus de 150 ont déjà été enregistrés. On y reviendra. Et puis, dans le monde du rap, on se mobilise contre l'extrême droite. No pasarán, ils ne passeront pas. C'est le titre d'un morceau de 10 minutes d'un collectif de 20 rappeurs. Et enfin, la France en quart de finale à l'Euro après avoir battu la Belgique.
RFI.
La campagne de l'entre-deux-tours a commencé ce lundi après un résultat historique de l'extrême droite ce week-end. On va faire un point rapide sur les résultats définitifs du premier tour de ces élections législatives anticipées avec les résultats publiés lundi matin par le ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement national et son allié Éric Ciotti des Républicains obtiennent 33,15% des voix devant le nouveau Front populaire à 27,99% des suffrages. La coalition présidentielle remporte, elle, 20,04% des voix. Selon plusieurs projections, le RN pourrait obtenir la majorité absolue dimanche prochain. Mais avec ou sans majorité absolue, le parti d'extrême droite peut-il espérer entrer à Matignon ? Élément de réponse avec Pierrick Bonneau.
Sur le papier, les réserves de voix du Rassemblement national sont très réduites en vue du second tour. Pour parvenir à la majorité absolue dimanche prochain, le parti a peu de marge de manœuvre. Il espère attirer dans ses filets deux catégories d'électeurs qui n'ont pas voté RN au premier tour, ceux qui ne veulent pas élire un député de la France insoumise et les déçus des désistements en cours entre la gauche et la coalition présidentielle. Et si le Rassemblement national acceptait finalement de former un gouvernement, même sans majorité absolue, l'hypothèse fait surface ces dernières heures. Le patron du RN a éludé la question ce matin en arrivant au siège du parti, mais plusieurs cadres frontistes ne ferment pas la porte. Sébastien Chenu notamment, réélu dès le premier tour hier soir, il laisse entendre chez nos confrères de France 2 que le RN assumera ses responsabilités si d'autres députés venaient à soutenir une possible majorité relative. Les regards se tournent évidemment vers les LR qui n'ont pas déjà rejoint le Rassemblement national. Certains chez nous ont tellement envie de gouverner qu'ils serait prêt à tout, nous confiait juste avant la dissolution un député de droite.
Pierrick Bonneau. Et ce lundi, après le premier tour des législatives anticipées, les désistements et les triangulaires étaient au centre de l'attention. Plus de 175 candidats arrivés en troisième position se sont désistés. La majorité serait issue du nouveau Front populaire, selon le décompte du journal Le Monde. L'objectif de ces retraits, tenter d'empêcher l'extrême droite d'obtenir une majorité absolue, on en a parlé. Une majorité absolue à laquelle le Rassemblement national croit encore. De son côté, le camp présidentiel, très affaibli après les européennes et ce premier tour, veut aussi croire qu'une alternative à un gouvernement RN est possible. Les leaders des deux camps, Jordan Bardella pour le RN, Gabriel Attal pour la coalition Ensemble, s'en sont expliqués l'un après l'autre, hier soir, au journal du 20h de TF1. Raphaël Devolvé.
Au RN, la mission consiste à décrédibiliser le Front républicain au cours de construction. Jordan Bardella.
Une alliance un peu contre nature entre monsieur Mélenchon et Emmanuel Macron. Une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre.
Le premier ministre dément toute alliance sans pour autant nommer les insoumis comme l'a fait Édouard Philippe. Gabriel Attal tente de clarifier la stratégie des désistements au sein du camp présidentiel.
Dans les circonscriptions où le maintien de notre candidat entraînerait une victoire de l'extrême droite face à un candidat qui défend les valeurs républicaines, à ce moment-là, on se retire. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement.
On devrait y voir plus clair après la clôture des candidatures à 18h ce mardi. Les deux hommes se projettent également après les élections. Jordan Bardella demande toujours la majorité absolue, mais assure aussi qu'une solution est à l'étude si le RN approche les fameux 289 sièges.
Il n'est pas impensable que des députés élus sous d'autres couleurs, divers droite, républicains, acceptent de travailler à nos côtés et de voter la confiance. Il y a des discussions.
Le chef du gouvernement compte bien faire échouer les plans du RN. Il veut croire que d'une assemblée sans majorité claire peut émerger un chemin pour gouverner.
Une assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division.
Sans certitude dans les deux camps, la bataille du second tour est donc lancée. Il reste 4 jours de campagne.
Raphaël Delvolvé. Et donc, il y a toujours cette question. Quel candidat compte se désister en vue du second tour pour faire barrage au RN? La réponse définitive, on l'aura ce mardi. Les candidatures pour le second tour doivent être déposées au plus tard à 18h. Et toujours dans ce contexte, ce lundi après-midi, des députés de gauche du NFP qui ont gagné leur circonscription dès le premier tour se sont réunis devant l'Assemblée nationale à Paris. Mathilde Panot, Éric Coquerel, Clémentine Autain, Daniel Obono, Émeric Caron étaient notamment présents. Victorien Villaume, ils appellent tous à faire barrage à l'extrême droite.
Devant micro et caméra, les députés de gauche fraîchement élus défilent tour à tour. Quelques sourires, mais le ton est grave avec un message principal. Malgré la position de favori du RN, la victoire est possible. Olivier Faure, du Parti Socialiste.
Il n'y a que 400 000 voix entre l'extrême droite et nous. Il y a aujourd'hui des désistements dans toute la France et donc personne ne connaît le résultat final.
Mais à 24 heures de l'échéance, certains candidats de la majorité refusent de se retirer pour favoriser un candidat de gauche, Nouveau Front Populaire. L'écologiste Sandrine Rousseau leur lance un appel.
La majorité va se jouer à quelques voix. Donc en fait, à chaque fois qu'ils failliront sur le barrage, ils offriront la possibilité d'une élection d'un député RN. Et cela, vraiment, j'en appelle à la responsabilité de chacun.
L'insoumis Éric Coquerel, lui, ne manque pas de dénoncer le flou entretenu par la majorité sur le barrage républicain.
Que des gens hésitent entre ces gens-là et ceux qui appuient un programme où il n'y a pas une mesure anti-républicaine. Au contraire, il y a des mesures qui mettent en avant la liberté, l'égalité, la fraternité. Je trouve ça désolant. Mais après, ils font ce qu'ils veulent, leurs électeurs ne suivront peut-être pas.
Pour l'instant, environ 50 candidats de la majorité présidentielle se désistent. Reste à savoir si les électeurs macronistes seront au rendez-vous du Front républicain.
Et on décompte pour l'instant plus d'une centaine de désistements. Les chiffres vont évoluer encore, mais je vous le disais plus tôt, plus de 175 candidats arrivés en troisième position se sont désistés selon les informations du journal Le Monde. C'est ce mardi à 18h qu'on saura définitivement qui est inscrit au deuxième tour et qui s'est éventuellement désisté pour faire barrage au RN. En attendant, l'ancien dirigeant de la CFDT, Laurent Berger, a accordé un entretien à l'AFP ce lundi soir. Il met en garde contre tout accroc dans le désistement républicain face au Rassemblement national. Il apporte aussi son soutien au candidat républicain de François Ruffin à l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. Et dans le monde de la musique française, les élections législatives anticipées et leurs résultats, avec un score historique pour le Rassemblement national, font réagir. No pasarán, ils ne passeront pas. C'est sous ce célèbre slogan des Républicains durant la guerre civile espagnole qu'un collectif de 20 rappeurs dénonce la menace de l'extrême droite. Le morceau dure une dizaine de minutes. Les ténors de plusieurs générations de rappeurs français prennent la parole. Quand le rap se mobilise contre le RN, c'est un sujet signé Olivier Roger.
Je me suis endormi le 29, calé devant BFM. Je me suis réveillé le 8 juillet, j'entends plus aucun bruit de crosse dans la tête, comme si j'avais voté Le Pen. Y a plus nos darons, donc y a plus.
Un slogan historique pour un moment décisif. No pasarán, le collectif de rappeurs réuni par le producteur DJ Corée ainsi que le directeur artistique Ramdan Touami a pour ambition de secouer les consciences et d'amener les jeunes électeurs à réagir.
J'ai fait un cauchemar, j'ai oublié d'aller voter.
Les punchlines anti-FN, anti-Bardella, anti-Marine Le Pen se succèdent durant 10 minutes avec plus ou moins de style ou de violence verbale.
Marine et Marion, les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Nique tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Y'a rien de magnifique, nous on fait de la violence artistique.
Parmi les 20 noms de la scène rap, citons Akhenaton, Sofiane, Zola, Kershak ou encore Mac Taylor, Seth Gecko et Costa. Tous dénoncent les discours de haine et d'exclusion que véhiculent selon eux le RN et ses alliés.
Mais je sais que l'extrême droite se sert de ma décollection. Donc anti-RN.
Au-delà de ce collectif, d'autres noms de la scène hip-hop ont appelé à faire barrage au RN, un mouvement qui s'est aussi étendu à la scène électro et à de nombreuses organisations de la société civile.
Jamais de la vie, on votera RN. Déjà, c'est une dinguerie, je vote. Derrière, y a tous mes potes qui se démènent, c'est les fils d'immigrés qui bossent.
No pasarán, ils ne passeront pas à signer un collectif de 20 rappeurs contre ce qu'ils appellent la menace de l'extrême droite.
24 heures en France.
Allez, on finit avec du sport. L'équipe de France est en quart de finale de l'Euro 2024. Les Bleus vainqueurs de la Belgique 1-0. Une victoire longue à se dessiner. Antoine Grenier.
Une dernière Marseillaise partie des tribunes lancée par le COP des supporters français pour fêter une histoire qui se répète. Comme face à l'Autriche pour leur entrée dans l'Euro, les Bleus s'imposent 1-0 à la Mercourt-Spiel Arena sur un but adverse contre son camp. Au lieu de Vauber, cette fois, l'infortuné se nomme Yann Vertonghen sur une frappe de Randal Kolo Muani. Et ça suffit au bonheur d'Antoine Griezmann.
Mais parce qu'il m'a dit ouais, que 1-0. Il veut quoi? Il veut gagner tous les jours 4-0. Les Belges m'ont beaucoup plu, m'ont pas impressionné, mais presque, par l'effort qu'ils ont fait tous ensemble. Voilà, on a encore une fois, on a été solide et Randall qui a fait la diff quand il est rentré, donc tant mieux pour nous.
Des Bleus pourtant toujours aussi maladroits, un tir cadré sur 20 tentatives et le but lui-même arrive sur une frappe qui ne prenait pas la direction du but. Chanceux, à défaut d'être efficace, les Français ont écœuré les Belges à l'image de leur capitaine Kevin De Bruyne.
Quand tu perds, c'est décevant, mais bien sûr, quand tu regardes, pour moi, l'équipe il a tout donné, bien sûr tu peux perdre contre la France, la manière c'était bien d'abord, on peut pas dire grand chose.
Des Bleus qui, sous Didier Deschamps, disputeront leur 5e quart de finale sur 6 grandes compétitions. Antoine Grenier, Düsseldorf, RFI.
Et alors que l'équipe de France de football s'est qualifiée en quart 1-0 face à la Belgique, eh bien Jules Koundé, le défenseur français, a appelé à faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement national. Déclaration après la qualification des Bleus pour les quarts de finale à l'Euro 2024 donc. Et puis cette information, les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doyon, placés en garde à vue à Paris aujourd'hui, ils sont accusés de violences sexuelles, accusés depuis plusieurs mois par Judith Godrèche et d'autres femmes. Benoît Jacquot et Jacques Doyon contestent ces accusations. Ce journal touche à sa fin, mais restez avec nous. 24 heures en France continue.
24 heures en France. Juliette Pietraszewski.
Tout de suite, notre invité. La France va-t-elle avoir un gouvernement d'extrême droite le 8 juillet prochain? Au lendemain du premier tour des législatives, où le Rassemblement national a fait un score historique de près de 33%, c'est l'heure des désistements dans les circonscriptions pour tenter de faire barrage au parti de Marine Le Pen. La coalition de gauche est arrivée en deuxième position avec 28% des suffrages et la majorité sortante est loin derrière. Pour toute la presse européenne, le pari d'Emmanuel Macron avec ses élections anticipées est raté et lui affaibli, et les conséquences de cette élection sur l'Union européenne sont scrutées de près. Pour analyser tout ça, Bertrand Badie, politologue, spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po, était l'invité d'Anne Kantner à RFI Midi. Écoutez.
Effectivement, l'Europe est un des grands chapitres qui se distingue par son incertitude aujourd'hui. Dans le cas du Rassemblement national, on a assisté depuis un certain temps à un très curieux dégradé. On partait de très haut, de très bas, ça dépend des goûts, c'est-à-dire d'une vision de l'Europe qui était négative, voire destructrice. Il a été évoqué un temps l'hypothèse du Frexit, mais sans aller jusque-là, on a évoqué l'hypothèse d'une sortie de l'euro, et sans aller même jusque-là à des demandes, des exigences de réformes profondes des institutions européennes de manière à renforcer la souveraineté de la France. Maintenant, le propos est beaucoup plus prudent. Il reste, et tout le monde le sait bien, qu'on ne peut pas faire progresser l'Europe sans aimer l'Europe, c'est-à-dire sans véritablement investir dans son identité même l'idée que l'avenir, c'est celle de l'intégration régionale. Ça, le Rassemblement national n'en veut pas. C'est une rupture dans l'histoire de la Ve République et je dirais même dans l'histoire de la République française depuis qu'elle est partie au traité de Rome de 1957. Donc, que va-t-il se passer dans cette situation? Eh bien, trois éléments explosifs. Premier élément, une négociation avec un président de la République qui reste un fervent défenseur de l'Europe et qui n'a cessé d'appeler à une refondation de l'Europe. Ce que sortira de cet affrontement, nul ne le sait. Le deuxième affrontement, il est à l'intérieur du Conseil européen. Vous savez que le Conseil européen est quand même l'institution clé, fondamentale, pivot des institutions européennes. Et là, il va falloir s'attendre à quelque chose qu'on avait un peu oublié depuis un certain temps, qui sont les nuits de blocage, c'est-à-dire où il deviendra très difficile à des partisans, de fervents partisans de l'Europe, je pense en particulier à l'Allemagne, mais on pourrait aussi trouver bien d'autres partenaires, mais je dis l'Allemagne à cause du couple franco-allemand, il sera très difficile de trouver un consensus. Et puis, il y a plus surprenant, un troisième blocage, qui est les nationalistes européens. Même s'il s'agit de la même famille, c'est une famille qui est extrêmement divisée. On est sur le point d'avoir trois groupes parlementaires européens d'inspiration nationaliste, puisque Viktor Orban vient de prendre l'initiative d'en créer un nouveau.
C'est ce qu'il a proposé hier.
Voilà. Et on sait par ailleurs que la sensibilité des différents partis nationalistes européens, que ce soit Madame Meloni en Italie, que ce soit les formations d'extrême droite associées au pouvoir en Europe du Nord, ou que ce soit les formations du même type relevant de l'Europe orientale, sont très différentes.
Pour analyser ces législatives anticipées, Bertrand Badi, politologue spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po. Il était l'invité d'Anne Cantner à RFI Midi. RFI, il est minuit 15 à Paris, toujours dans le contexte de ces législatives anticipées. Cette année, les marches des visibilités organisées juste avant le premier tour ont été très politisées. Les participants ont brandi des pancartes et scandé des slogans contre le Rassemblement national. Un message relayé par plusieurs appels de la communauté LGBT+, à faire barrage à l'extrême droite en votant pour l'Alliance de gauche, le nouveau Front populaire. La crainte d'un regain de haine et de violence à l'égard des minorités et palpable. Reportage à Strasbourg, Violaine Munoz-Boileau.
Dans les loges du Petit Tigre, un bar du centre-ville de Strasbourg, une dizaine d'artistes drag se préparent pour leur show. Assise devant un miroir, Miskin termine son maquillage. Ce drag queer strasbourgeois craint que ce ne soit son dernier spectacle si le Rassemblement national sort gagnant des législatives.
Peut-être que demain, on ne pourra plus faire des shows comme celui-là. Parce qu'on aura peur pour nos vies, parce qu'on aura peur de se faire tabasser en sortant, parce qu'on aura peur d'avoir des dessins de groupuscules fascistes dangereux. Qu'on ne pourra pas se protéger nous, mais qu'on ne pourra pas non plus protéger notre public.
Miskin fait partie de House of Diamonds, l'un des collectifs drag strasbourgeois à l'origine de l'appel à faire barrage à l'extrême droite. Signé par près de 600 collectifs et artistes drag à travers la France, ce texte dénonce une banalisation de la violence à l'égard de toutes les personnes minorisées et l'impute au parti de Marine Le Pen.
Chaque pourcent que le Rassemblement National gagne, c'est des agressions supplémentaires. Moi j'ai des amis qui là, particulièrement depuis les européennes et la dissolution de l'Assemblée Nationale, se font de plus en plus insulter dans la rue. Donc ouais, clairement on a peur.
Dans le public ce soir-là, plusieurs membres de la communauté LGBT partagent cette inquiétude, comme Léon, jeune homme gay en visite depuis Paris.
La dernière chose que j'ai entendue et qui, moi, personnellement, m'a fait peur, c'était l'agression de trois personnes du GUD, le syndicat d'extrême droite, à Paris, envers une personne LGBT. Et ils ont dit ouvertement que dans trois semaines, ils pourraient tabasser des gays ouvertement.
Même sentiment chez Cécile, une étudiante libanaise qui a fui son pays, le Liban, où elle était persécutée en tant que lesbienne.
Je suis venue pour prouver ta sécurité, mais en France, je ne suis pas en sécurité, pas du tout. J'ai toujours peur de m'afficher devant les gens et je reçois beaucoup de harcèlement physique et moral.
En 2023, SOS Homophobie a en effet constaté une nette hausse des agressions physiques anti-LGBT. Pour Flora Guiros, présidente de la Station, une association pour les personnes LGBT+, à Strasbourg, Emmanuel Macron est en partie responsable de cette situation.
Notamment, on a pu voir Macron qui qualifiait d'ubuesque cette proposition du Front populaire visant à changer le genre sur les papiers d'identité. La façon dont ça a été dit par le président encourage une panique morale pour essayer de gagner les voix de l'extrême droite. Ça, pour nous, ça a été extrêmement violent.
Depuis les européennes, l'association de Flora Guiros multiplie les actions pour sensibiliser aux dangers que représente le RN pour les LGBT.
Le RN, là où il est présent dans les mairies, on voit les associations LGBT qui voient leurs subventions coupées. Et très clairement, le RN dit qu'il va combattre l'idéologie LGBT, dit qu'il va interdire la PMA aux couples lesbiens, par exemple. Et nous, ce qu'on voit bien, c'est que dans les autres pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, on peut pas en penser à la Pologne, en fait, c'est un recul énorme du droit pour les personnes LGBT.
Et de mettre en garde, une fois que le mal est fait, revenir en arrière s'avère beaucoup plus compliqué. Vilouane Munoz-Boileau, Strasbourg, RFI.
Reportage à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, il est 18h18 à Fort-de-France et tout de suite le journal de l'Outre-mer.
Le journal des Outre-mer.
un journal présenté par Tiziana Maron. À la une, les résultats des élections législatives anticipées aux Antilles qui ont voté samedi. Bonsoir Tiziana.
Bonsoir. Décalage horaire oblige, les électeurs du bassin atlantique, qui comprend aussi la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon, ont voté samedi. Les taux de participation en hausse par rapport aux législatives de 2022, mais l'abstention reste massive. Thierry Belmont.
En Guyane, Deviriman, qui est arrivé largement en tête dans la seconde circonscription, devait affronter au second tour Sophie Charles. Mais la maire de Saint-Laurent-du-Maroni a jeté l'éponge. Le député sortant devrait donc retrouver son siège sous la bannière du nouveau Front populaire. Son collègue Jean-Victor Castor devra attendre le second tour. Il devrait l'emporter face au candidat sans étiquette Boris Changsit. En Martinique, le député sortant Jean-Philippe Nénor, nouveau Front populaire, caracole en tête dans la quatrième circonscription avec 63% des voix. Il sera contraint à un second tour face au candidat du Rassemblement national. Dans les premières, deuxième et troisième circonscriptions, les sortants Giovanni William, Marcelin Nadeau et Johnny Ajar sont tous arrivés en tête au premier tour sous la bannière du nouveau Front populaire. En Guadeloupe, les quatre circonscriptions placent la gauche en pole position. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le député sortant Stéphane Lenormand, archipel demain, est en tête, 43% des voix. Il retrouvera au second tour Frédéric Beaumont du Parti socialiste. En conclusion, dans le bassin atlantique, les députés sortants gardent une avance confortable, mais on observe la qualification au second tour de trois candidats du Rassemblement national.
Le Rassemblement national, qui s'est imposé dans l'Hexagone lors de ce premier tour, a réussi à placer un candidat au deuxième tour dans les sept circonscriptions de La Réunion. C'est historique pour le département. Partout dimanche prochain, les électeurs réunionnais devront choisir entre le candidat de l'extrême droite et celui du nouveau Front populaire. Malgré une participation plus importante qu'aux législatives de 2022, plus d'un Réunion sur deux continue de ne pas voter. Le reportage de Lisa Mella de Réunion La Première.
Malgré un regain d'intérêt pour les bureaux de vote, il n'était pas difficile de trouver des électeurs abstentionnistes désabusés.
Je trouve que c'est inutile. Aucun truc de social, c'est bon.
Je trouve qu'il y a trop d'abus et trop. Les hommes politiques profitent de ça justement. Donc c'est plus intéressant.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes pourtant. Les Réunionnais se sont rendus bien plus nombreux aux urnes pour ces législatives anticipées que pour les législatives de 2022. La politologue Christiane Raffidine-Arrive propose une explication.
Il y a une question de changement de situation promis par les candidats.
Elle rappelle qu'il y a plusieurs types d'abstentionnistes, ceux qui ne votent pas par choix, ceux qui se sentent dépassés par la politique, ne se sentent pas représentés. Mais il y a aussi les intermittents, c'est-à-dire ceux qui votent selon les circonstances. Et hier, les circonstances étaient exceptionnelles.
Lisa Mella de Réunion La Première. Une page de santé avec la recrudescence du Covid-19 en Guadeloupe. La circulation du virus est surveillée de près par l'Agence régionale de santé à l'approche des grandes vacances. Les autorités recommandent le retour des gestes barrières, voire le port du masque. Pascal Pétrine de Guadeloupe La Première.
Quatre indicateurs sont scrutés quotidiennement par l'ARS depuis plusieurs semaines pour surveiller la circulation du SARS-CoV-2. Le premier, le nombre de cas évocateurs liés au passage des patients chez les médecins de ville, qui a connu une progression hebdomadaire de 2,5 il y a 10 jours, passant de 275 à 675 cas. Deuxième indicateur, celui du passage aux urgences pour suspicion de Covid, avec près de 40% des cas qui concernent des personnes âgées de plus de 65 ans. Quant aux hospitalisations, elles aussi progressent. 5 patients ont été hospitalisés la semaine 25 contre 2 la précédente.
Je vous amène dans l'océan Pacifique pour terminer. La Nouvelle-Calédonie est une terre de baleines. Elles sont attendues dans les eaux chaudes du Pacifique pour mettre bas dans moins de 15 jours. Les opérateurs touristiques se préparent, mais les scientifiques aussi. Le reportage est signé Luigi Waringo Palmieri de Nouvelle-Calédonie La Première.
Le voyage des baleines à bosse est l'une des migrations les plus impressionnantes du règne animal. Une migration annuelle qui offre également une opportunité précieuse pour la recherche scientifique. Claire Daisy Bonneville, biologiste et présidente de l'association Opération Cétacé.
Alors on fait des recherches sur le comportement des animaux. Les prélèvements ils sont assez délicats parce qu'on doit s'approcher assez près des animaux. Et on fait des prélèvements à l'aide d'une arbalète qui va prélever un tout petit morceau de peau. Pour nous, ça serait l'équivalent d'avoir une petite piqûre de moustique. Hein. Et en fait, avec ce tout petit bout de peau, ça va nous permettre de connaître le sexe de l'individu, connaître aussi sa carte génétique, énormément d'études annexes.
Que l'on soit scientifique ou non, les excursions en bateau, organisées pour observer ces créatures imposantes, permettent de vivre des moments inoubliables.
Moi, je trouve que les baleines et même beaucoup d'espèces de mammifères marins sont des espèces complètement fascinantes de par leur comportement, de par aussi leur grandeur. C'est souvent très impressionnant d'observer des baleines à bosse dans leur milieu naturel.
La saison des baleines commencera officiellement le 13 juillet. Certains prestataires proposent déjà des sorties à la journée pour observer ces géants des mers.
Et c'est la fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée et merci Tiziana.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
C'est l'heure du Conseil Santé avec Chantal Loureau et on s'intéresse aux maladies de la petite enfance.
Professeur Idrissa Dembaba, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes pédiatre, pneumopédiatre et allergologue, chef du service de pneumologie pédiatrique du Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer de Dakar au Sénégal. Professeur, quels sont les maux, les maladies de la petite enfance qui reviennent le plus souvent ?
La petite enfance souffre certaines pathologies qui sont dans la plupart des cas bénignes. Elles concernent surtout les affections respiratoires qui constituent la première cause de morbidité. Si on parle d'affections respiratoires, c'est les rhinites, les pharyngites, les bronchites. Et ça peut aller jusqu'aux crises d'asthme et parfois nous avons des cas de pneumonie, particulièrement cette période. À côté de ces affections respiratoires, nous avons les autres maladies qui touchent le système digestif, les diarrhées, les vomissements. Donc c'est surtout ces affections courantes qui concernent la petite enfance.
Si on sent que son enfant ne va pas bien, à quel moment doit-on impérativement l'emmener chez le médecin ?
Il y a ce qu'on appelle des signes d'alerte, des signes de danger et de gravité. Un enfant, normalement, ça doit jouer beaucoup, ça doit être très énergique. Si l'enfant est très calme, ne bouge pas beaucoup, donc est très somnolent, ça veut dire que c'est un signe de danger. Si l'enfant respire difficilement, c'est-à-dire respire en cherchant beaucoup son souffle, c'est un signe de danger et de gravité. Si l'enfant devient pâle, change de couleur ou devient bleu, ou si l'enfant est inconscient. Et parfois, on dit qu'un enfant qui refuse de manger, qui pleure beaucoup, qui gêne, qui fait qu'il y a un gênement, donc il y a une maladie grave et mérite souvent d'aller voir le pédiatre. Ou sinon, quand l'enfant vomit beaucoup ou a beaucoup de diarrhée, donc ça, la conséquence, c'est la déshydratation. Dans ces situations, il faut impérativement aller voir un médecin ou un professionnel de santé.
Merci beaucoup, professeur Idrissa Dembaba. Bonne journée à Dakar.
C'était le Conseil Santé avec Chantal Loureau. 24 heures en France, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci à la technique, Fabrice Viollet. À la rédaction en chef, c'était Raphaël Rennes. Vous avez rendez-vous avec Delphine Liu pour les journaux de la nuit. Et dans un instant, votre édition Afrique Soir. Mais avant, on se connecte avec New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
La bourse avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones arrache 51 points pour revenir à 39 170. Le Nasdaq avance de 147 points et atteint 17 879. Le plus frappant aujourd'hui est surtout la nette détérioration du marché obligataire. Le rendement du T-bond à 10 ans s'envole à 4,48, ce qui correspond à une chute de plus d'1% du prix de l'obligation du Trésor. On y voit la réaction à la probabilité d'une large victoire des Républicains aux élections de novembre aux États-Unis, et ce, à la suite du débat télévisé catastrophique pour le président Biden. La probabilité d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais aussi d'un retour de la majorité républicaine au Sénat et d'une plus grande marge de majorité républicaine à la Chambre des représentants, inquiète certains investisseurs. Lorsqu'un seul parti contrôle à Washington l'exécutif et le législatif, le risque de dérapage des comptes publics est encore plus élevé. On peut supposer aussi qu'une administration Trump serait très dure en matière de contrôle de l'immigration, augmenterait les barrières douanières, deux politiques qui sont jugées inflationnistes. Elle reconduirait en outre les baisses d'impôts adoptées durant la première administration Trump, ce qui aggraverait probablement le déficit budgétaire. La chute du marché obligataire est d'autant plus surprenante que les nouvelles de la conjoncture américaine aujourd'hui sont décevantes. Selon l'indice PMI, au mois de juin, l'activité manufacturière a ainsi encore ralenti. L'euro remonte à 1,0738, le baril américain de pétrole reprend plus de 2,5%, revenant à plus de 83 $. Aujourd'hui, l'indice Dow Jones grappille 0,1%, le Nasdaq avance de 0,8%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Dans l'est de la RDC, après la ville stratégique de Kanyabayonga, d'autres localités sont passées sous le contrôle du M23. Que vous inspire la progression des rebelles? Quelles peuvent être les conséquences? Et dites-nous, quelle doit être la riposte des autorités?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Polygamie, de l'intimité des foyers au sommet de l'État, comment les femmes en parlent.
Mercredi.
Apprendre à nager, comment rendre accessible ce savoir essentiel de sécurité publique.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.